Le mardi et le jeudi, Manuela, ma seule amie, prend le thé avec moi dans ma loge. Manuela est une femme simple que 20 années gaspillées à traquer la poussière chez les autres n'ont pas dépouillée de son élégance. Traquer la poussière est au reste un raccourci bien pudique. Mais chez les riches, les choses ne s'appellent pas par leur nom. « Je vide des corbeilles pleines de serviettes hygiéniques », me dit-elle avec son accent doux et suintant. « Je ramasse le vomi du chien. Je nettoie la cage des oiseaux. Et on ne croirait pas que des bêtes si petites font autant de caca. Je récure les water. Alors la poussière, la belle affaire. » Il faut se représenter que lorsqu'elle descend chez moi à 14h, le mardi de chez les Hartins, le jeudi de chez les Breuil, Manuela a peaufiné au coton-tige des chiottes dorées à la feuille qui, en dépit de cela, sont aussi malpropres et puantes que tous les gogues du monde. Parce que s'il est bien une chose que les riches partagent à leur corps défendant avec les pauvres, ce sont des intestins nauséabonds qui finissent toujours par se débarrasser quelque part de ce qui les empuantit. Aussi peut-on tirer une révérence à Manuela. Quoique sacrifiée sur l'autel d'un monde où les tâches ingrates sont réservées à certaines, tandis que d'autres passent le nez sans rien faire, elle n'en démord pour autant pas d'une inclination au raffinement qui surpasse de loin toutes les dorures à la feuille, a fortiori sanitaire. Pour manger une noix, il faut mettre une nappe, dit Manuela qui extirpe de son vieux cabas une petite bourriche de bois clair dont dépassent des volutes de papier de soie carmin et nichées dans cet écrin des tuiles aux amandes. Je prépare un café que nous ne boirons pas, mais des effluves duquel nous raffolons toutes deux et nous sirotons en silence une tasse de thé vert en grignotant nos tuiles. De même que je suis à mon archétype une trahison permanente, Manuela est à celui de la femme de ménage portugaise une félonne qui s'ignore. Car la fille de Pharaon, née sous un figuier après 7 autres et avant 6, envoyée au champ de bonheur, et tout aussi vite mariée à un maçon bientôt expatrié, mère de 4 enfants français par le droit du sol, mais portugais par le regard social, la fille de Pharaon donc, inclut les bas de contention noirs et le fichu sur la tête, est une aristocrate, une vraie, une grande, de la sorte qui ne souffre aucune contestation, parce que, apposée sur le cœur même, elle se rit des étiquettes et des particules. Qu'est-ce qu'une aristocrate? C'est une femme que la vulgarité n'atteint pas, bien qu'elle en soit cernée. Vulgarité de sa belle famille le dimanche, assommant à coups de rire gras la douleur d'être née faible et sans avenir. Vulgarité d'un voisinage, marqué de la même désolation blême que les néons de l'usine, où les hommes se rendent chaque matin comme en redescend en enfer. Vulgarité des employeuses, dont tout l'argent ne sait masquer la vilenie, et qui s'adressent à elle comme à un chien croûtant de pelade. Mais il faut avoir vu Manuela m'offrir, comme à une reine les fruits de ses élaborations pâtissières, pour saisir toute la grâce qui habite cette femme. Oui, comme à une reine. Lorsque Manuela apparaît, ma loge se transforme en palais, et nos grignotages de paria en festins de monarques. Comme le conteur transforme la vie en un fleuve chatoyant où s'engloutissent la peine et l'ennui, Manuela métamorphose notre existence en épopée chaleureuse et gaie. Le petit palière m'a dit bonjour dans l'escalier, dit-elle soudain en rompant le silence. Je grogne avec dédain. « Il y Marx ?» dis-je en haussant les épaules. « Marx ?» interroge-t-elle en prononçant le X comme un che, un peu mouillé qui a le charme des ciels clairs. « Le père du communisme, » réponds-je. Manuela émet un bruit méprisant. « La politique, » me dit-elle, « un jouet pour les petits riches qui ne prêtent à personne. » Elle réfléchit un instant, sourcils froncés. « Pas le même genre de livre que d'habitude, » dit-elle. Les illustrés que les jeunes gens cachent sous leur matelas n'échappent pas à la sagacité de Manuela. Et le petit palière semblait un temps en faire une consommation appliquée, quoique sélective. Comme en témoignait l'usure d'une page au titre explicite, « Les marquises friponnent ». Nous rions et devisons encore un moment de choses et d'autres dans la quiétude des vieilles amitiés. Ces moments me sont précieux. et j'ai le cœur qui se serre lorsque je songe au jour où Manuela accomplira son rêve et retournera pour toujours au pays, me laissant ici, seule et décrépite, sans compagne pour faire de moi deux fois la semaine une reine clandestine. Des pas se font entendre dans le hall d'entrée, puis nous entendons distinctement le bruit sibyllin que fait la main de l'homme sur le bouton d'appel de l'ascenseur. Un vieil ascenseur à grilles noires et portes battantes, capitonné et boisé où, s'il y en avait eu la place, se serait tenu autrefois un groom. Je connais ce pas, c'est celui de Pierre Artins, le critique gastronomique du 4e. Un oligarque de la pire espèce qui, à la manière dont il plisse les yeux quand il se tient sur le seuil de mon logis, doit penser que je vis dans une grotte obscure, bien que ce qu'il envoie lui apprenne le contraire. Eh bien, je les ai lus, ces fameuses critiques. « J'y comprends rien », m'a dit Manuela, « pour qui un bon rôti est un bon rôti, et c'est tout. » Il n'y a rien à comprendre. C'est une pitié de voir une plume pareille se gâcher à force de cécité. Écrire sur une tomate des pages à la narration éblouissante, car Pierre Artins critique comme on raconte une histoire et cela seul aurait dû en faire un génie, sans jamais voir ni saisir la tomate, est un affligeant morceau de bravoure. Peut-on être aussi doué et aussi aveugle à la présence des choses? Me suis-je souvent demandé en le voyant passer devant moi, avec son grand nez arrogant. Il semble que oui, certaines personnes sont incapables de saisir dans ce qu'elles contemplent ce qui en fait la vie et le souffle intrinsèque, et passent une existence entière à discourir sur les hommes comme s'ils s'étaient agis d'automates, et sur les choses comme s'ils n'avaient point d'âme, et se résumaient à ce qui peut en être dit au gré des inspirations subjectives. Comme par un fait exprès, les pas refluent soudain, et Artins sonne à la loge. « J'attends un paquet par coursier, me dit-il, yeux plissés et narines pincées. Lorsqu'il arrivera, pourriez-vous me l'apporter immédiatement ?»« Cet après-midi, M. Artins porte une grande lavalière à pois qui flotte autour de son cou de patricien et ne lui sied pas du tout parce que l'abondance de sa chevelure léonine et la bouffance éthérée de la pièce de soie figurent à elles deux une sorte de tutu vaporeux où se perd la virilité dont à l'accoutumée l'homme se pare. » Et puis diable, cette lavalière m'évoque quelque chose. Je manque de sourire en me le remémorant. C'est celle de Le Grandin, dans La recherche du temps perdu, œuvre d'un certain Marcel, autre concierge notoire. Le Grandin est un snob écartelé entre deux mondes, celui qu'il fréquente et celui dans lequel il voudrait pénétrer. Un pathétique snob dont d'espoir en amertume et de servilité en dédain, la Lavallière exprime les plus intimes fluctuations. Ainsi, sur la place de Combray, ne désirant point saluer les parents du narrateur, mais devant toutefois les croiser, charge-t-il l'écharpe de signifier, en la laissant voler au vent, une humeur mélancolique qui dispense des salutations ordinaires. Pierre Artins, qui connaît son Proust, mais n'en a conçu à l'endroit des concierges aucune mansuétude spéciale, se racle la gorge avec impatience. Je rappelle sa question. Pourriez-vous me l'apporter immédiatement ? Oui, dis-je, en battant des records de concision, encouragé en cela par la sienne et par l'absence de « s'il vous plaît » que la forme interrogative et conditionnelle ne saurait, d'après moi, excuser totalement. « C'est très fragile, » ajoute-t-il. « Faites attention, je vous prie. » La conjugaison de l'impératif et du « je vous prie » n'a pas non plus l'heure de me plaire, d'autant qu'il me croit incapable de telles subtilités syntaxiques et ne les emploie que par goût, sans avoir la courtoisie de supposer que je pourrais m'en sentir insultée. C'est toucher le fond de la mare sociale que d'entendre dans la voix d'un riche qu'il ne s'adresse qu'à lui-même et que, bien que les mots qu'il prononce vous soient techniquement destinés, il n'imagine même pas que vous puissiez les comprendre. « Il s'agit d'un incunable, me dit-il, et il plante dans mes yeux, que je tâche de rendre vitreux, son regard satisfait de grand propriétaire. « Eh bien, grand vous fasse, » dit Jean prenant un air dégoûté. « Je vous l'apporterai dès que le coursier sera là. » Et je lui claque la porte au nez. La perspective que Pierre Arthens narre ce soir à sa table, au titre de bons mots, l'indignation de sa concierge, parce qu'il a fait mention devant elle d'un incunable et qu'elle y a sans doute vu quelque chose de scabreux, me réjouit fort. Dieu saura lequel de nous deux s'humilie le plus.